Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Neuf heures dans le bureau de Par Jupiter, Charline est en pleine lecture du Canard enchaîné.
Oh là là, ça c'est un scandale.
Alex, lui, se documente dans Paris Match.
Moi, je savais pas qu'ils étaient ensemble, ces deux-là.
Quand soudain...
Salut les amis.
Ah, bah tiens, tu tombes bien, parce que je vais reprendre tout ça en main.
Oh là, j'ai peur.
Voilà. Elle est bien en maillot de bain, regarde.
Alors, chers amis, je voudrais qu'on revienne un petit peu aux fondamentaux de cette émission.
Ah, voilà, le coup des fondamentaux, évidemment.
Sur l'autre page.
Non, mais c'est vrai, parce que la satire, c'est ce qui fait quand même tout le sel de Par Jupiter.
Et bientôt, elle veut nous dire ce que les auditeurs attendent.
Alors, ce que les auditeurs attendent de nous, c'est de la blague ciselée qui dénonce, mais finement, comme
ça. Ça, je dois dire qu'elle est, Summer Body.
Parce qu'on a trop tendance à se reposer sur l'humour facile, je pense aux brèves, Castaner, tout ça.
Les brèves aussi.
Oui, ça, je l'ai déjà dit.
Vous pouvez les remercier, les brèves. Oui. C'est quand même elles qui nous permettent de talonner les grosses têtes.
Ça, c'est tout ce que je ne veux plus.
C'est vrai, c'est pas bien malin, mais avec ça, on rassemble.
Surtout, on va rassembler nos esprits et je vais vous apprendre, moi, ce que c'est que la satire. D'accord.
Ok. J'ai peur, moi, ça me fait peur.
C'est pour ça que je vais venir aujourd'hui un caricaturiste suisse de talent, Chapat.
Allez. Chapati,
c'est parti, oui. Chapati, c'est excellent.
Alors ça, vraiment, c'est précisément tout ce que je ne veux plus. Ça. Bonjour à la France Inter. Bienvenue dans la start-up de la radio publique, dont voici la devise du jour. Ne remets pas à demain la deadline du process que tu peux faire le jour même. Voici le sommaire. Le nuancier des polémiques sur le voile offre toute une gamme d'engueulades et c'est sans fin. La dernière innovation, le voile porté par une maman qui encadre une sortie scolaire.
Tant que vous n'apprenez pas à nos enfants comment devenir des kamikazes, terroristes, islamistes, il n'y a aucun problème avec ça.
Qui a foiré dans la non-arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès? D'où vient l'erreur? Les polices françaises et écossaises se rejettent la responsabilité. On a peut-être rangé le pop-corn trop tôt ce week-end. Surtout que côté police française, n'oubliez pas qui est le patron.
Je crois qu'on doit pouvoir, on va vérifier, vous communiquez la fiche de poste de l'auteur. On va vérifier.
Le défenseur des droits a été contraint de faire un petit rappel aux entreprises. On ne verse pas un salaire plus élevé aux gens qui sont beaux, non. Le physique de l'emploi, ça n'existe pas.
Sinon, vous avez déjà pensé à vendre votre corps?
Non, mais ça va pas.
Moi, je consommerais.
Voici celui qui connaît le tiercé gagnant de la chronique, c'est Alex Bizorek.
Exactement. Bonjour, Charline Vanhoenacker. Eh bien, je vais vous offrir une toute belle équipe à 17h20, celle dont la seule constance est dans son prénom. Mais au fond, l'inconstance régulière n'est-elle pas de facto une forme de constance? Constance.
Waouh.
Bonjour.
De quoi vous parlez?
Je vais vous faire une chronique qui fait mal.
Et à 17h30, celui qui rêve de devenir schizophrène pour pouvoir s'interroger lui-même et se prouver qu'il a tort, c'est Guillaume Meurice.
Bonjour à tous, et aujourd'hui je vous laisse un petit peu de suspense sur mon sujet du jour. Je vais vous parler d'un sujet qui divise la France, et j'ai même rencontré des personnes assez radicales.
J'ai rien contre, j'ai rien pour.
Ouais, c'est un radical mou.
Et à 17h40, celle qui aime la poésie, alors je vous le dis, je n'ai qu'un pays, celui de ton corps, je n'ai qu'un désir. Ton triangle d'or, c'est du Herbert Léonard. Clara Dupont-Mono, bonjour.
Bonsoir.
Ça vous a pas touché, j'ai l'impression.
Non, pas tellement.
De quoi on va parler ?
D'un chef-d'œuvre anglais traduit par Google.
Très bien. Et voici celui qui est venu redessiner les contours de l'actualité. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes...
Patrick Chapat.
Yes. Oui.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Patrick Chapat, bienvenue.
Merci. Quand vous avez dit caricaturiste suisse de talent, il y a eu comme un grand silence. C'était bizarre.
C'est du respect.
D'accord.
On est impressionnés.
Dessinateur de presse et reporter, parce que vous faites aussi de la bande dessinée de reportage. Chapat, on vous connaît bien sûr dans le Canard enchaîné, dans le Courrier international. Vous êtes le caricaturiste du journal suisse Le Temps. On vous a aussi connu dans l'International New York Times.
Eh oui.
Ouais,
Jusqu'en juin dernier,
où le journal a décidé de se séparer de la caricature parce qu'il n'y a plus besoin, tout va bien.
Bah non.
On va y venir.
Il est déjà au pouvoir. la caricature est au pouvoir.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh, bah, allons-y tout de suite, alors, comme ça, on aura parlé de ce sujet, évidemment, on vous a sous la main. Donc, c'est au printemps dernier, l'International New York Times, la version internationale donc, du New York Times, qu'on appelait avant Herald Tribune.
Oui, mais j'ai envie de dire pas que, parce que c'était aussi sur le site du New York Times, sur les réseaux sociaux. Oui. Le seul endroit où il n'y avait pas les dessins, c'était dans l'édition print américaine, l'édition papier. Voilà.
Ouais. Et puis, décide de virer les deux caricaturistes. Il y avait vous et un caricaturiste portugais qui a émis un dessin dont j'ai oublié le nom.
Pas tout à fait. Ce qui a été la cause de tout ça, c'est vrai que c'est un dessin d'un collègue portugais, Antonio Antunes, mais qui, lui, ne travaillait pas pour le New York Times. C'était en fait un dessin d'agence, parce que le New York Times avait donc deux dessinateurs maison, et le reste du temps, trois jours par semaine, il reprenait des dessins d'agence. Mmh. Et là, j'étais en vacances, figurez-vous. J'étais à New York pour recevoir un prix pour le New York Times. Quand ils ont eu l'étrange idée, ils avaient quand même le choix entre quelques dessins, de choisir un dessin sur Trump et Netanyahou de mon collègue Antonio, qui est un dessinateur très doué. Mais ce dessin-là, transposé dans les colonnes du New York Times, ça a mal passé. Mmh. Il s'est fait traiter d'antisémite. Polémique totalement injustifiée, mais enfin c'est parti en vrille.
Alors qu'il y peut rien, c'est eux qui ont choisi ce
c'est
dessin
choisi,
dans
voilà.
le fil AFP des dessins en
ouais.
fait.
Ouais, ouais. Mais là dans la gestion de crise, ils ont pas été terribles. Ils se sont excusés, re-excusés, battu la coulpe, et puis un mois plus tard, ils ont décidé finalement. C'est quand même plus simple quand on a un problème avec un message, autant supprimer tous les messagers. Mmh. Il y a une chronique qui tourne mal, on supprime tous les chroniqueurs et bientôt la radio.
Voilà. Alors heureusement qu'on fait pas ça, ouais.
C'est sûr. Alors qu'il y a jamais eu.
Non, justement, on serait plus là.
Il y a jamais eu autant d'autocrates clownesques dans le monde depuis tous les dictateurs qu'on a connus au XXe siècle. Donc c'est absolument une hérésie de faire ça.
Bah oui, ouais. Il me semble. Il y a un besoin vital du dessin de presse. Parmi tous les outils qu'on a à disposition pour essayer de comprendre ce qui se passe aux États-Unis et le phénomène Trump, il me semble que la satire est peut-être le plus approprié. Oui, parce que finalement, on peut s'étaler en analyse, on n'arrive pas à faire le tour de ce personnage ubuesque. Ouais. Alors que j'ai l'impression que le côté farce est finalement ce qui rend le plus justice à ce type qui est vraiment entre le grotesque et le tragique, parce que c'est grave. C'est quand même grave ce qui se passe.
Et c'est d'ailleurs lui avec votre personnage préféré, Kim Jong-un. Voilà, vous me rendez un exemplaire.
Oui, je l'ai pas fini mon dessin.
Bon, je vous le rends alors. Du meilleur dessin. Donc 2015-2018, par Chabat, ça s'appelle Le Choc des Égaux. C'est publié par le journal Le Temps. Donc vous pouvez sans doute vous le procurer via le site du journal suisse Le Temps, de nos confrères. Il y a Trump en face de Kim Jong-un. Le Choc des Égaux. Et Trump demande à Kim Jong-un, quelle sorte de gel coiffant? Je vous le rends comme ça, vous faites un petit dessin.
Je pourrais le refaire avec Boris Johnson, je crois.
Oui, c'est vrai.
Finalement.
Effectivement. Et puis vous dessinez aussi dans Le Canard Enchaîné. Il sort demain. Enfin, il est bouclé ce soir. Vous fonctionnez comment avec eux, avec Le Canard? On envoie plein de dessins sur plein de sujets où ils vous commandent des choses.
Comment c'est ça. Non, Le Canard aime bien avoir une diversité de choix. Ils ont raison. Je me mets à leur place. Et donc oui, on envoie plusieurs idées, plusieurs esquisses, plusieurs dessins. Et puis après, on sait plus ou moins ce qui va paraître. Là, en principe, j'en ai trois. Mais enfin, je sais pas, vous l'avez déjà eu ce matin,
non,
d'après ce que j'ai entendu dans la chronique. Étonnamment, vous aviez le canard ce matin.
On a des facilités.
On l'a le soir.
Avant le bouclage. Incroyable.
C'est une question intéressante parce que nous, en radio, si on demandait à Guillaume de nous proposer trois chroniques et nous choisirions celle qu'on préfère, il nous enverrait à la gare. Chez les dessinateurs, c'est une tradition de faire ça, de dire voilà, moi, je vous envoie plein de sujets. Et puis vous choisissez.
Non, j'en ai pas l'habitude, mais c'est la manière dont Le Canard fonctionne, je crois. Que
et beaucoup de journaux fonctionnent comme ça.
Les satiriques fonctionnent pas mal comme ça, je crois. Ouais.
Ouais. Non, mais même les journaux. Enfin, Kroll me disait que.
Du travail sur Apple.
Il envoyait son
Kroll,
thème.
Kroll, c'est le dessinateur belge qui publie soir. Dans Le Soir.
Et il envoie son thème et une proposition de croquis, et puis eux disent oui ou non s'ils continuent dans cette lignée-là, je crois.
Non, alors moi, je fais un truc qu'on m'a jamais demandé de faire avec la plupart des journaux avec lesquels je travaille, c'est que j'aime bien me donner du temps et envoyer 5-6 idées, enfin réfléchir à plusieurs approches. Et ensuite, je les teste, je fais un sondage, je récolte les résultats du sondage, et puis je choisis. Voilà, j'aime bien la démocratie, moi.
Vous respectez, le sondage.
Ben non,
justement. Oui, la démocratie.
Mais en fait, c'est un système qui me permet d'éliminer bien les sûr. Idées qui ne marchent pas.
Exactement.
Parce que si 8 personnes me mettent en dernier l'esquisse numéro 3, c'est qu'il y a un truc qui ne marche pas.
Alors, votre particularité aussi, c'est que vous publiez dans plusieurs journaux de plusieurs pays. Vous faites du dessin. Est-ce qu'il est nécessaire de parler plusieurs langues pour publier dans plusieurs pays?
Un peu quand même. Ouais. C'est-à-dire, c'est vrai que pour le New York Times, je travaille en anglais. Bon, j'ai vécu à New York, un petit peu à Los Angeles. Et donc, je devais être capable... c'est pas ma langue maternelle, donc ça, c'est quand même un handicap. C'est aussi le pourquoi du système de plusieurs esquisses, parce que des fois, je me rate carrément dans... j'ai eu fait des jeux de mots en anglais, donc ça marche pas. Très bien. Et je vous avoue, mais... On ne nous écoute pas, là, vous n'êtes pas...
Non, on coupera.
On n'est pas sur Arte. Parce que je travaille pour Der Spiegel, le magazine allemand, et pour un autre journal à Zurich. Et je vous avoue que je ne trouve pas mes idées en allemand. Ça, c'est ma limite. Je suis désolé. Donc, je leur envoie mes idées en anglais, puis après, ils essaient de traduire, et finalement... Ça doit être extrêmement drôle, le résultat.
Chapat, et puis on connaît vos dessins, bien sûr, mais on peut aller voir aussi votre site internet, chapat.com, alors avec deux P, deux T, pour où vous classez en fonction d'un petit peu de vos obsessions de dessin. Il y a notamment Trump, le réchauffement climatique, où on peut voir tout ça. Et puis on parlera d'une exposition pour les Belges, parce qu'il y a des Belges qui nous écoutent, une exposition à Charleroi, on en touchera un mot tout à l'heure, qui s'appelle « Fenêtres sur les couloirs de la mort ». Alors ça, pour un caricaturiste, restez avec nous pour en savoir plus, parce qu'on ne va pas tout dévoiler d'un coup, hein, quand même. Allez, Patrick Chapat est avec nous. Et on écoute Elvis Presley, A Little Less Conversation, sur France Inter. Ont fait Elvis, ils l'ont tout remixé à 17h21 sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter, nous sommes en compagnie du dessinateur de presse et reporter Patrick Chapat. Il est suisse, mais pas que, vous allez voir bientôt. Il a vécu partout, c'est un peu compliqué, on s'en rend compte. Et pour l'entourer, Alex ?
Eh bien, par ordre d'apparition, Constance, Guillaume Meurice et Clara Dupont-Monod.
Voilà. Alors on va essayer de faire un petit peu de caricature, mais orale, de notre côté.
Je n'ai pas de difficulté à ce qu'une femme voilée participe à une sortie scolaire.
On préfère qu'elle ne mette pas le voile dans une sortie.
Le journal de presque 17h17.
Alors, vous êtes plus d'accord ?
Et on commence par les titres.
Gérard Collomb a été investi par La République En Marche pour diriger la métropole de Lyon après les élections, bien sûr, municipales de mars.
Et après, on va encore dire qu'Emmanuel Macron fait rien pour les personnes âgées. Et ben, chapeau.
Sans transition, enfin presque, le doyen des Français est mort à l'âge de 111 ans.
Et merde, encore un auditeur de moins pour France Inter.
Oui. C'est peut-être à cause des brèves. Hein.
Oui, mais donc le mieux pour le savoir, c'est qu'on va encore en faire. Comme ça, on verra si on en perd d'autres.
D'accord.
Et commençons par Marine Le Pen.
Oui, elle a déclaré, je cite, « Bien sûr que je veux être présidente de la République ».
Eh bien, moi aussi, bien sûr que je veux pécho Sophie Marceau et Julia Roberts en même temps. On a le droit d'avoir des fantasmes.
Hier soir, sur CNews, c'était la première de la nouvelle émission d'Éric Zemmour.
Ah ouais, c'est super, ça. Il va avoir une émission pour pouvoir dire qu'il ne peut plus rien dire. Et ça, c'est bien. Laurence Ferrari, qui présente l'émission d'avant, eh ben, elle a dû lancer son acolyte Éric et Christine Kelly.
Dans un instant, Christine Kelly et ses invités pour cette nouvelle émission Face à l'info.
Et voilà, c'est l'affaire est lancée.
Voilà, en tout cas, c'est confirmé, on peut être condamné et avoir son émission de télé.
Et oui, et dans ce cas, vivement que Luco Rocco Magnotta sorte de prison pour reprendre Top Chef.
Merci Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, bah apparaît demain.
Maison et travaux, il reprend Maison et travaux.
Exactement, on est d'accord. Alors, on peut même ne pas être condamné et quand même venir dire n'importe quoi en télévision.
Bien sûr. Et c'est Yves Tréhard, éditorialiste Figaro, qui s'est sacrifié pour l'équipe sur LCI dans un débat sur le voile, évidemment.
Il m'est arrivé de prendre le bus en France, de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu.
Oui. Nous ne verrons pas Yves Tréhard sur un bateau à voile. Donc, voilà. Du coup, bien évidemment.
International.
Dominique Strauss-Kahn s'est déclaré pro-Brexit.
Ah, bah, de la part de quelqu'un qui a passé sa vie à se retirer, c'est marrant.
Ah, bah d'accord, on prend les blagues de table soi-même. Ok, pas de souci. Chacun sa spécialité. Merci. Ouais. Oui, bah, on va quand même l'écouter, notre économiste préféré.
Le Brexit n'arrange rien à tout cela. Mais vous savez, moi, je suis un Brexiteur, en fait.
Je suis un Brexiteur. Et un sacré Brexiteur, sans douter.
Allez, on passe à la première dame. Pas de transition.
Pas de transition. Hier matin, un ancien élève de Brigitte Macron était au micro d'Europe 1 et écoutait ce qu'il pensait de sa professeure de français.
C'est assez captivant comme de l'avoir en professeur et du coup, ça rendait le français plus excitant, je dirais.
Eh ben, alors, on est français plus excitant. Et sur certains, ça a bien fonctionné, évidemment.
Sport, le parcours du Tour de France 2020 a été dévoilé. Il partira de Nice.
Ça, vraiment, non. Non.
À quoi vous êtes pas content?
Non, mais c'est pour ça. Mais dans la région, il y a déjà le Festival de Cannes comme événement qui réunit les drogués. C'était pas nécessaire d'un jeu.
Allez, People, Nabila a accouché d'un petit garçon.
Et oui, il a déjà tout le talent de sa mère. Savoir faire parler de lui sans n'avoir jamais rien fait de sa vie.
Ouais, bah, vous pourriez être un peu touché. Oui,
excusez-moi, pour une fois qu'elle accouche d'autre chose qu'une connerie.
D'accord, allez,
Drôme, une propriété. Propriétaire jugé pour avoir frappé son locataire à coups de marteau.
Marteau ?
Ouais, sans doute une ancienne Claudette.
Elle est bonne. Allez, la dernière.
Voilà, la dernière. États-Unis, une famille d'ours s'introduit et se promène dans une maison. Enfin, alors, attention, on n'est pas sûr. Peut-être c'est Jean Lassalle qui a pris un petit Airbnb. On ne sait pas.
Merci, Alex.
Mais de rien, Charline.
Patrick Chapat, c'est un terrain de jeu tellement formidable, information française, qu'on va s'y plonger dedans, n'est-ce pas ? La collection automne-hiver de la polémique sur le voile montre une tendance sortie scolaire cette année. Avec une souplesse dans le tissu, mais une déchirure au gouvernement, parce que tous les ministres ne sont pas du même avis et Emmanuel Macron n'a pas tranché. Alors, monsieur le président, mais on fait quoi avec le voile d'une maman pendant une sortie scolaire, bon sang ?
Ah, je suis heureux que vous me posiez la question. C'est une question intéressante. Laissez-moi finir. Je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez.
Ah non, mais bon, nous sommes suspendus à vos lèvres.
Michel Serrault, bien sûr, dans la gueule de l'autre. Film, si je me souviens bien, de Pierre Tchernia.
Je pense que oui.
Très bien. Alors, Patrick Chapat, vous qui observez la France de l'extérieur, quand même.
De très loin.
De très loin. De Suisse et de vos voyages. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Est-ce que le voile, c'est quelque chose qui revient de façon épidermique, régulière et peut-être, je vous laisse d'autres qualificatifs.
Oui, ben je sais pas, c'était visiblement on s'ennuyait quoi, on manquait de sujets de conversation, de division, de non, c'est assez curieux cette manière d'y revenir en fait, hein, de couper sans arrêt les cheveux en quatre sous le voile et c'est curieux parce que ça dénote un peu de déjà il y a un petit peu de dans la manière dont ça s'est passé là dans l'hémicycle, c'était un petit peu gênant quoi, il y avait un radicalisme là du côté de cet élu Rassemblement National.
Mm-hmm. Oui, alors il y a deux affaires, il y a la maman, l'encadrement scolaire, ouais. Et il y a aussi le...
Mais alors c'est vrai, où va-t-on s'arrêter? Parce que si on commence avec les accompagnantes scolaires, ensuite il y a les cuisinières scolaires, il y a la dame qui fait traverser la rue... Et puis il y a celle qui nettoie les toilettes à l'école.
C'est une sorte de névrose française, on pourrait dire, quand on voit ça de l'extérieur.
La laïcité.
Oui, un petit peu. Ça dénote un peu d'un manque de confiance. C'est ça qui est étonnant, parce que finalement, la laïcité, c'est une forme de confiance qui induit une tolérance. Ça paraît évident. Et puis là, ce qui est curieux, c'est les messages très très brouillés des différentes personnalités politiques. A priori, on se réfère à une loi. Et puis, une fois qu'on a une loi, eh ben, on peut avoir une pratique confortable et tolérante. Et puis là, on réinterprète un peu la loi.
C'est un sujet difficile. C'est difficile de s'en emparer quand on est caricaturiste. C'est un peu inflammable.
Non, parce qu'on fait des gros jeux de mots sur... d'où mon dessin du canard, merci de me l'avoir piqué, sur les stages de voile qui ont été supprimés. D'après la dernière directive scolaire.
Les grands esprits, mon cher ami.
Voilà. Donc là, on est toujours tranquille de ce côté-là. Mais quand on veut aller dans le fond de l'affaire, c'est vraiment une question de subconscient, je crois.
Vous venez d'un pays où il y a eu cette histoire de minaret, il y a quelques années, dont on avait beaucoup parlé. Elle en est où, la laïcité en Suisse? Et quel est le rapport au voile et ces choses-là?
Bah, c'est vrai que la pratique en Suisse, elle est cantonale. Hein. C'est les cantons qui chacun établissent le rapport de l'État et de la religion. À Genève, il n'y a pas très longtemps, puisque moi je suis un peu suisse, mais surtout assez genevois finalement. et à Genève, figurez-vous, a voté une loi sur la laïcité qui se rapproche pas mal du modèle français. Je crois qu'il, quelque part, va même un petit peu plus loin, puisque les élus dans un hémicycle, dans un parlement, ne peuvent pas porter le voile. Et sauf erreur, ça c'est quand même possible pour une élue en France. Mais la pratique qui est établie et reconnue par le tribunal fédéral, donc la plus haute instance, c'est que les professeurs ne portent pas le voile parce qu'on considère que c'est la sphère publique, alors que les élèves peuvent porter le voile parce qu'on considère que c'est la sphère privée. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, les minarets, c'est vrai qu'il y a une petite tache là dans cette belle image de la Suisse. L'histoire des minarets qui a surpris tout le monde. Hein, donc l'interdiction de construire des minarets, qui est une drôle de manière de tout simplement exprimer. C'est la même chose avec le discours sur les discussions sur le voile en France. De touiller un petit peu dans les sentiments les plus bas, et puis de faire un petit peu surgir de la soupape. Quelques pressions nauséabondes. Je pense que l'histoire des minarets, ça a été ça. Ouais. C'était une manière pour les gens d'exprimer autre chose.
Et on a parlé du voile avec un caricaturiste qui est amené à Karachi, au Pakistan.
Un peu, ouais. Non, mais moi, je suis un petit peu un juif errant, un pâtre grec et un métèque. Parce que né au Pakistan, d'une mère libanaise et ayant grandi à Singapour. Donc, essayez de comprendre quelque chose.
Patrick Chapat avec nous. Je vais citer un de vos très récents dessins paru dans Le Temps. Dépistage de la radicalisation dans la police. Il y a un fonctionnaire qui est reçu par deux inspecteurs de l'IGPN. Il y en a un inspecteur qui dit « Si je vous dis Allah ou Akbar ?» Et le fonctionnaire répond « C'est l'un ou l'autre ?» Et l'autre inspecteur dit « Bon, celui-ci, c'est bon. » Paru dans Le Temps le 11 octobre. C'est la patte de Patrick.
Merci,
elle a bien raconté aussi.
Alors, Constance, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous?
Je suis en train de me pincer très très fort, Charline, m'entraîner à aimer la douleur.
Ah bon?
Voilà, parce que on est d'accord qu'aujourd'hui nous sommes le 15 octobre et c'est la journée mondiale contre la douleur. Donc ok, aujourd'hui tout va bien. Mm-hmm. Mais demain c'est reparti la douleur. Et malheureusement je constate avec déception que je n'aime ni souffrir ni voir les autres souffrir. Et c'est une faiblesse. Mais je refuse de baisser les bras, vous m'entendez? Oui, ça doit juste être un petit réglage, une partie du cerveau à reconfigurer. Et quand enfin mon mental sera dans le droit chemin, je vais me régaler. À moi le kiff de me faire épiler le maillot. Je vous fais l'interfessier? Oh oui, évidemment, mais quelle question. Et promettez-moi que ce sera de la cire vraiment très très chaude. Hein. Je veux des cloques autour de la rondelle, sinon je ne paye pas. Et puis, il faut faire aussi une seule grosse bande et tirer lentement en écoutant du Hélène Ségara à fond avec une lumière de néon dans les yeux qui clignotent. Oh, j'ai hâte. À moi les rendez-vous gynécologiques plaisir. Docteur, cette fois-ci, le frottis, je compte bien sur vous. Hein. Vous raclez bien au fond. Hein. Et pas de vaseline hein, sur le spéculum, sinon c'est de la triche. Hein. Oh, le bonheur à chaque mammographie. Vous pourriez presser un petit peu plus fort mon sein, s'il vous plaît. Il n'est pas encore assez bleu. Oh, merci, la vache, c'est bon. Oh, je pourrais faire exprès de m'éclater le petit doigt de pied dans la table basse. Ah, c'est bon, ça. Je me cognerai avec joie les coudes dans les angles des murs. Ah oui, et je ferai tout pour avoir une maladie chronique atroce et je passerai mes week-ends à Center Park. Je frémis à l'idée d'aller aux manifs et de provoquer en même temps et les manifestants et les CRS pour être sûr de bien me faire péter la gueule. Alors les flics, on tape très très fort parce qu'on a une grosse grosse matraque parce qu'on a une toute petite petite bite. Et les gilets jaunes, sales pauvres, arrêtez de vous déguiser en Pokémon, allez plutôt bosser bande de feignasses. Coucou, la manif pour tous. Dis donc, vous aimez pas beaucoup les travaux, mais en attendant votre chef le pape, je voudrais pas dire mais il se trimballe tout le temps en robe, il serait pas un peu pédé le François? Ah ouais, des coups dans le ventre, ouais, des coups dans la gueule, frappez-moi tous en même temps, s'il vous plaît, de toutes vos forces. Mais oui, elle vient, cette hémorragie interne, je l'attends, merde! Et tout ça, c'est juste la douleur physique. Mais pour kiffer complètement, il faudrait aussi de la douleur mentale. Ah ouais, je pourrais me mettre en couple avec un pervers narcissique qui me dira... Je t'aime, tu es la femme de ma vie. Et en même temps, il me dira, pourquoi t'as mis ce jean aussi moulant? C'est pour me faire souffrir parce que t'es une pute! Et après, il me dirait, je t'aime parce que t'es la femme de ma vie. Ouais, j'aurai enfin un bon gros niveau de masochisme. Je pourrais changer de prénom. On pourra m'appeler Dolores. Ah ouais, je regarderai en boucle les chaînes d'infos en continu. En même temps, eh ben, je me poilerai en regardant des vidéos des L214. Et pourquoi pas jouir sur des images de génocide? Enfin, en attendant, j'aime pas la douleur, donc bah pour l'instant j'en chie quoi.
Constance, vous êtes beaucoup trop en forme. Et alors on va profiter que vous êtes en forme pour dire à tous les Lillois, à Mille-Lillois, le samedi 26 octobre, Constance vient vous voir pour jouer son spectacle Pot pourri. En attendant, c'est tous les mardis soirs au théâtre des Deux Ânes. Merci Constance. On est avec le dessinateur de presse Chapanne jusqu'à 18h. On va en profiter, croyez-moi.
Plus la maison, je ne retrouve plus la raison. Où est passée ma thérapie? J'ai beau te chercher dans le miroir, réouvrir au milieu un tiroir. Où est passée ma thérapie? J'entends au loin le chant de ton âme, une voix qui me dit. Je prends conscience que tu es pourtant la juste ici, si près de moi. Quand je me dis oui chaque fois. Pour la main solitaire, happy.
M. Thérapie qui succédait justement à la chronique de Constance. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à la revoir sur franceinter.fr ou la podcaster, bien sûr. Nous sommes en compagnie de Patrick Chapat, le dessinateur de presse et reporter. Parmi les dessins que vous faites pour le Canard Enchaîné, pour Le Temps, pour le Courrier International, il y a aussi donc vos plus chouettes dessins de l'année publiés par Le Temps, justement, votre site internet, et pour nos amis belges à Charleroi et peut-être ensuite en France, espérons-le, une exposition qu'on a pu voir aux États-Unis déjà, puis qui arrive à Charleroi en Belgique, qui s'intitule « Fenêtres sur les couloirs de la mort ». Qu'avez-vous fait, Patrick Chapat ?
Ça plombe l'ambiance.
Alors expliquez-nous ce gros projet.
Le dessin de presse, le dessin de manière générale, c'est un formidable outil de communication en fait. Et ça fait des années que je fais des projets où j'utilise le dessin comme un outil pour aborder des thématiques pas forcément drôles ou enfin des questions qui posent problème. Et là, on est allé vivre aux États-Unis à Los Angeles en 2014 en famille avec Anne-Frédéric Widman, mon épouse et journaliste. Et puis on est parti sur ce projet qui s'appelait Windows on Death Row, qui se traduit librement en fenêtre sur les couloirs de la mort. Et en fait, l'idée, c'est de croiser les regards de dessinateurs de presse américains sur la peine de mort, et on a récolté pas mal de dessins là-dessus, avec un regard absolument inattendu, celui des condamnés à mort. Donc en fait, on a contacté les condamnés à mort, qui étaient quelques 3000, je crois que c'est à peu près le nombre qu'on a aux États-Unis, qui sont difficiles à joindre, enfin c'était tout un boulot. Ensuite, on leur a demandé de participer, d'envoyer des dessins, parce qu'on peut pas filmer dans les couloirs de la mort, on peut pas... Comment témoigner de cette réalité, qui est complètement sous le tapis aux États-Unis, hein. Une fois que les gens sont condamnés à mort, on se dit que c'est fini. Mm-hmm. En réalité, il reste 20 ans.
Ça, hein.
Ben non, en réalité, il reste 20 ans, 30 ans. Aux en Californie, 750 condamnés à mort en attente, en backlog, enfin ça fait du monde, et... Mm-hmm. Et ils finissent par mourir de vieillesse. Et ils sont à l'isolement, hein, 2 mètres sur 3, sans aucun contact pendant 30 ans. Essayez d'imaginer ça. Donc on en a rencontré, on a visité des prisons de haute sécurité. Et ça a donné cette expo qui a tourné aux États-Unis, de Los Angeles au Texas, en Ohio, en Caroline du Nord. Ça, c'était intéressant.
Pour arriver à Charleroi, en Belgique.
Pour arriver à Charleroi.
Déjà qu'à Charleroi, c'est pas facile tous les jours.
C'est pas super.
Si vous remettez un coup sur la cafetière.
Ouais, ouais.
Ça va être l'animation locale, quoi. Ça ouvre vendredi. Mm-hmm. Et là, c'est la version française. Donc, à part ça, il y a des trucs absolument étonnants. Il y a des vrais artistes qui se révèlent et qui vous montrent leur réalité. Hein. Et c'est un truc de fou. Plus on regarde le système judiciaire et la question de la peine de mort aux États-Unis, plus on délire. L'emprisonnement et l'isolement en soi, c'est déjà considéré comme de la torture, hein, par Amnesty. Donc ils témoignent de tout ça à travers quoi ? À travers l'image. Mmh. Et alors, une seule remarque d'une dame qui est venue voir l'exposition à Los Angeles, elle a dit qu'elle a changé d'avis sur la peine de mort. Elle est, dans le bon sens, elle était...
Si elle pouvait voyager, cette expo,
la peine de mort,
fenêtre sur les couloirs de la mort qui peut-être un jour viendra en France, la peine de mort, hein, l'exposition. Guillaume Meurice.
Oui, alors aujourd'hui je vais vous parler chômage, précarité et écologie, puisque ce sont les trois thèmes qui préoccupent le plus les Français. Et... Oh putain, attendez, excusez-moi, j'interromps ma chronique. On me signale une femme voilée qui aurait été aperçue aux abords d'une école, primaire. Il s'agirait bien d'une femme voilée arabe de confession musulmane. Attention à ne pas confondre avec une petite grand-mère catholique qui se protège de la pluie ou Alex Vizorek qui sort de chez le coiffeur avec des bigoudis. Là, il s'agit bien d'une véritable femme voilée. Alors, je vois évidemment la stupeur dans les regards de toute l'équipe de Par Jupiter. Gardez votre sang-froid. L'émission continue quand même. Nous ne céderons rien à la barbarie. Mais comprenez qu'en l'état actuel des choses, je ne peux pas poursuivre ma chronique sur des thèmes aussi secondaires que la précarité et le réchauffement climatique, puisqu'il s'agit d'une femme voilée. Je rappelle, une femme véritablement voilée, on ne voit plus les cheveux de la femme. Excusez-moi, vous voyez, même moi je suis pris dans l'émotion. La France est paralysée, on passe en plan PP, le plan de secours Pascal Pro. Comme tout bon personnel médiatique, j'avais anticipé ce matin même, en recueillant des paroles de Français traumatisés, par, je le rappelle, un bout de tissu sur la tête d'une femme.
C'est une horreur.
Une horreur, à ce point-là ?
Parce que, ici, on est en France, on est libre.
Mais alors, si en France, on est libre, pourquoi elle serait pas libre d'avoir un voile ?
Mais parce que c'est pas laïque.
Qu'est-ce que c'est pour vous, être laïque ?
d'être libre, faire ce qu'on veut.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Les femmes doivent pouvoir être libres de s'habiller comme Jean-Michel Blanquer le veut. C'est la base de la loi de 1905. D'ailleurs, 1905, c'est le QI à Jean-Michel Blanquer. Voilà, donc il est très très fort. Il lutte contre l'islamisation qui a d'ailleurs déjà commencé.
J'entends des fois, ils parlent aux enfants, même pas en français. Des fois, j'ai dit à une dame, mais vos enfants vont à l'école? Il me dit, oui. Mais ils parlent comment? Ah ben, ils vont apprendre le français, peut-être. Ah, je dis, peut-être, il faut apprendre le français, enfant, des enfants.
Inch'Allah.
Écoutez.
On en parle, excusez-moi. Excusez-moi, c'est parce que je traîne avec des islamo-gauchistes toute la journée, je suis désolé, putain, j'espère que Darmanin va pas m'expulser en musulmanie. En plus, je crois même pas en Allah, moi, je dis Inch'Allah, mais je crois même pas en Allah. C'est comme si je disais, Inch, soirée torride avec Clara. J'y crois pas, enfin, j'y crois plus, quoi, c'est terminé. Bref, recentrons-nous sur notre cœur de cible, le voile.
C'est contraire à nos mœurs et coutumes. Alors, j'apprécie effectivement les voyages. Quand je suis à l'étranger, ça ne me dérange pas. Mais donc, je suis effectivement pour conserver nos traditions. Ça me fait plaisir de rentrer chez moi et de retrouver le pain, la baguette et le béret.
Et le béret, bien évidemment, puisqu'on a tous un béret en France, c'est bien connu. Bon, nous, on le met pas tout le temps. On s'est mis d'accord pour que ce soit Jean Lassalle qui le porte pour tous les Français. Mais c'est pareil, il est dans notre tête, le béret. D'ailleurs, ce monsieur, sur la tête, il avait pas un béret, il avait une casquette américaine.
C'est une casquette qui est pratique, hein, puisqu'en fait, ça permet d'avoir chaud l'hiver. Faut que j'y aille.
Ouais, mais j'ai l'impression que vous respectez pas bien les traditions françaises.
Pourquoi?
Bah avec cette casquette de baseball.
Ah bah écoutez, on a le droit aussi d'innover un peu.
Ah, mais pas les femmes voilées par contre.
Non.
Non, c'est quand même très simple, hein. C'est pas compliqué à piger. La culture étrangère, c'est cool. Si c'est pour bouffer des burgers en matant du catch. D'accord? La culture américaine n'est pas invasive, c'est la culture arabe le problème. D'ailleurs, puisqu'on parle de culture, voyons voir une dame qui elle-même est métisse. Elle est née d'une mère espagnole et d'un père allemand, mais elle est française, hein, pour autant, attention, jusque dans sa vision du pays.
Vous voyez, ils sont 80% des arabes pratiquants dans notre pays, donc bon, il faut quand même qu'ils respectent les 20% qui restent.
Vous pensez qu'il y a 80% d'arabes pratiquants?
Ah oui.
Mais pratiquant quoi?
Pratiquant l'islam pur et simple, quoi.
80% de la population française?
Ah oui, oui.
Et on apprend énormément de choses, hein. 8 personnes sur 10 en France sont musulmanes, ils l'ont dit sur CNews, hein. Donc c'est vérifié, c'est de l'info de qualité. D'ailleurs, les dernières personnes qui ne sont pas musulmanes en France travaillent pour CNews. Et encore Morandini, je l'ai entendu dire, je vais me faire le jeûne. Mais je sais pas s'il parlait du stagiaire ou du ramadan. Bon, en tout cas, ça change rien quand une femme voilée vient dans un conseil régional.
Elle avait une manière également d'agresser la République par ses... Hein, elle est pas venue... De manière neutre, je pense, dans cette enceinte.
En mettant un voile, elle agresse la République?
Visuellement, elle agresse.
Hein, la République, je le rappelle, n'est pas agressée par des millions de travailleurs pauvres, par 500 personnes qui meurent dans ses rues tous les ans, par des espèces qui meurent également par milliers, par des chômeurs, des migrants qui se noient ou par le dernier album de Florent Pagny. Elle est agressée par un bout de tissu qui voile les cheveux et qui dévoile une récupération et une xénophobie d'État.
Guillaume Meurice, merci. Oh là là, quel terrain de jeu en ce moment.
Ah bah oh, j'avoue que le
vent aurait été trop difficile ce matin. On est rentré vite.
Malheureusement.
Allez, nous sommes avec Chapat jusqu'à 18h. Alors si vous pensiez qu'on avait atteint les cimes du ridicule avec la non-arrestation de Xavier Dupont-de-Ligonnès, on n'y est pas.
Ah.
On n'y est pas, maintenant qu'il faut trouver où ça a foiré, les polices françaises et écossaises se rejettent la faute. Les Écossais soutiennent qu'ils n'ont jamais confirmé, ni en public ni en privé, que l'homme interpellé à Glasgow était XDDL. On l'appelle comme ça maintenant. Les policiers français disent qu'ils ont obtenu à 4 reprises confirmation de l'identité par SMS et échanges verbaux. Donc il reste une hypothèse. Les Français ont mal compris le message en anglais et ça c'est à cause de l'accent écossais.
Yes, my lord. Yes, my lord. But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sûr que c'est un coup de fantomas. Dites-moi alors, surtout, en attendant, pas d'imprudence, hein. Dès que je serai là, vous ne risquerez plus rien. Et bien sûr, pas un mot. Je voyagerai incognito. Et cette fois-ci, croyez-moi, il ne m'échappera pas.
À demain, monsieur le commissaire.
À tout moment, my lord.
Fufu dans Fantomas contre Scotland Yard, un film d'André Hunebel. Alors, Chapat, comment on fait pour caricaturer un sujet qui l'est déjà? Est-ce qu'il y a des facilités dans lesquelles il ne faut pas céder? Comment est-ce que vous avez appréhendé ce dossier, sachant que là, il y a un rebondissement?
Bon, en général, un dessinateur ouvre le dictionnaire des clichés. Hein. Ouais. Alors, il regarde sous Écosse, il trouve quoi ? Kilt, avarice, machin, whisky.
Whisky.
Et puis, ça finit par faire un gag. Hein,
ouais,
fait ça.
Oui, c'est ça. Comme ils étaient bourrés, ils ont fait
un bah, ça comme... de votre travail.
comme un chroniqueur.
On dirait nous, ouais, c'est vrai.
Mais, bon, y a le problème de something got lost in translation, comme on vient de dire. Il y a aussi l'accent écossais qui n'aide pas beaucoup. Enfin, je sais pas comment. Ouais. Comme on dit, Xavier Dupont de Lyonnais, déjà en écossais. Et ça, c'est la coopération policière européenne pré-Brexit.
Oui, donc, en plus, c'est vrai.
Ça promet.
Ouais, oui. Vous l'avez dessiné pour le temps ou pour le canard
non.
cette semaine, cette
non,
affaire
non. Non, on peut pas tout faire non plus.
Non, je me doute. Mais là, avec le bras de fer qui s'annonce entre les Écossais et les Français, ça fait une dimension de plus.
Oui,
c'est assez,
oui, non,
sujet,
mais c'est assez cocasse. Et puis, mais c'est vrai, des fois, ça nous fait un bien fou de retomber sur les clichés. Mmh. C'est une manière de. Et là, il y en a pas mal des deux côtés, je crois.
Oui, sans doute. C'est vrai qu'entre les Français et les Écossais, on va y arriver, sans doute. Patrick Chapat avec nous jusqu'à 18h. Et Clara Dupont-Monod, vous auriez un conseil lecture pour nous ?
Oh, bah oui, puisque d'abord, un conseil d'actualité, hein. Puisque l'actualité, c'est la désacralisation. Notre invité, Patrick Chapat, est même payé pour désacraliser l'actualité chaque semaine, à grand coup de dessins hilarants. Alors, apprenez, monsieur Chapat, que vous n'êtes pas le seul à manquer de respect aux choses sérieuses. J'ai ici une autre punk qui s'appelle Davina Samarcelli. C'est un beau nom, on dirait de haute couture, mais elle se fait appeler l'indéprimeuse. Et c'est une jeune femme corse pour qui plastiquer est un hobby. Le raccourci sommaire, okay, mais vous allez voir, avec plastiquer, il y a une transition parce qu'elle a fait quelque chose de génial. Elle a plastiqué un chef-d'œuvre. Elle a pris Hamlet de Shakespeare et elle l'a fait traduire par Google Traduction. Hamlet, en anglais, littéralement, ça veut dire jambon laissé. Vous êtes d'accord? Donc le livre va s'appeler Jambon laissé. Et il est signé William Shakespeare, littéralement, Guillaume Remue-Poire. Vous me suivez toujours? Non, mais elle l'a vraiment fait. Alors, il faut quand même imaginer qu'Hamlet aura eu la traduction de Jules Supervielle, d'André Gide, d'illustres auteurs. Et parmi tant d'intelligence, il fallait bien quand même un peu de stupidité. Et c'est chose faite grâce à Google, parce que de l'anglais victorien et victorieux de Shakespeare, il ne reste qu'un objet monstre après cette traduction automatique. Je vous donne un exemple. Acte 3, scène 4, la reine demande à Jambon laissé. « Que dois-je faire ?» Et Jambon laissé répond. C'est comme ça que Google traduit, à partir de Shakespeare. « Pas ce, en aucun cas, que je dis que vous faites. Que le roi de ballonnement vous tentez à nouveau au lit. Pincez sans motif sur la joue, vous appelez sa souris. Et le laissez pour une paire de baisers Richie, ou pagailler dans votre cou avec ses doigts d'année. Assurez-vous, ah, que je suis essentiellement pas dans la folie, mais folle dans l'artisanat. » Et il conclut. « Est-ce ?» D'un paddock, d'une chauve-souris, un lardon, ses chers concernings cash, qui le ferait? Et c'est une vraie question. Vous êtes d'accord? Alors, en faisant ça, l'indéprimeuse, elle marche dans les pas de ces sales gosses qu'ici on adore, qui ont toujours chahuté la littérature. Au premier rang, c'est l'Oulipo, évidemment qu'on adore, mené par Pérec, par Raymond Queneau, par Italo Calvino dans les années 60. Et eux, ils s'étaient éclatés et l'indéprimeuse doit forcément en avoir gardé une petite trace. Mais les oulipiens, comme on disait, ils se sont mis à écrire des livres sans eux. Ils ont mixé les poèmes de Mallarmé et Musset en créant un auteur qui s'appelait Malursé. Ou bien ils ont inventé l'exercice d'anaérobie qui consiste, je cite, à asphyxier le texte en lui enlevant la lettre R. Ainsi, la phrase « Cette rosse amorale a fait crouler le parterre devient cette os amoale a fait couler le pâté. Parce qu'en fait, on a enlevé tous les R, ils s'amusaient à faire ça. Et en même temps, ce genre d'exercice que nous, on adore, il est beaucoup plus profond qu'une simple blague, parce qu'avec ses délires, mine de rien, l'Oulipo, en fait, honorait le principe de la contrainte. Il fallait une contrainte. C'est pour ça qu'ils aimaient tant les mathématiques. C'était carré, c'était cadré, et il fallait que la créativité arrive à s'en emparer. Et ben finalement, l'indéprimeuse avec Jambon laissé, elle fait pareil. L'enjeu est beaucoup plus vaste qu'une simple blague. Parce que Jambon laissé montre que cette juxtaposition de mots n'a aucun sens, et que donc l'intelligence artificielle dont Google se targue a quand même un peu de soucis à se faire. Et parce que Google traduit en fonction d'un répertoire qui est sans arrêt remis à jour, le choix de tel ou tel mot de cette traduction dessine en creux des pratiques culturelles, dessine un public qui vont pas être les mêmes dans un mois, dans un an, puisqu'à chaque fois la technologie se renouvelle. Et donc cette traduction-là, eh ben, elle est unique. Et en effet, à un moment, dans la version normal. Hamlet dit à Ophélia, je vous ai aimé jadis. Ophélia répond, en vérité, monseigneur, vous me l'avez fait croire. Bon, ça, c'est la version admise. Avec jambon laissé, ça donne, je vous aime pas. Ophélia répond, je suis plus trompée. Bon, on sait même plus, je suis plus trompée. Et peut-être qu'un jour, Google traduira ce dialogue par moi et qui fait-vous? Et Ophélia répondra, balance ton jambon. Non mais oui, on peut tout imaginer. En bref, je cite la préface qui est très bonne. Mm-hmm. C'est pertinent et c'est stupide. Cela n'a pas de raison d'être. Il fallait donc le faire, écrit Étienne Candel dans la préface. Je vous redonne les références. Jambon laissé de Guillaume Remupoire, de chez, imprimé chez l'Indéprimeuse.
C'est bon, je vous le donne. Ça a été monté au théâtre.
Ça a été monté au théâtre.
Qui s'en est emparé.
D'accord. Ouais. Ah bah bonne chance pour retenir le texte. Ouais. Chapeau. Merci Clara Dupont-Monod. Patrick Chapat.
On comprend
avec nous.
Que les policiers français ont utilisé Google Translate.
Ah, voilà, c'est ça. Sans doute.
Dans l'affaire de Ligonnès.
N'empêche, il y a quand même un mystère. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les policiers, même en France, n'ont apparemment qu'une seule empreinte de Xavier Dupont de Ligonnès. Une seule. Et les Écossais ont une copie. Parce qu'il a déposé un jour son empreinte de l'index droit, je pense, pour renouveler une carte d'identité. Donc, d'accord, à suivre, il y a une affaire dans l'affaire. C'est... Je me suis renseignée. Alors, je me suis basée sur l'article du Parisien. Pour être
bien
informée.
C'est bien, c'est une bonne source.
J'ai jugé que c'était le mieux sans explique.
Allez, Chapat avec nous.
Ils vérifieront quand même deux ou trois fois avant de sortir des infos, donc ça va.
Des cheveux gris, vous taisez-vous. Oui, justement, on parle concernés. De vous, des cheveux gris, ou une voix jugée trop haut perchée sont encore des freins à l'embauche.
Exactement.
Le défenseur des droits a dû émettre un petit rappel à l'ordre aux entreprises. Elles ont des obligations en matière de discrimination. Un recruteur sur deux a déjà émis un jugement sur un candidat avant même que ce candidat n'ait ouvert la bouche. Et les personnes jugées belles perçoivent un salaire de 12% plus élevé par rapport aux autres.
Non, je suis pas plus payé, moi.
Un candidat moche,
c'est ça.
Un candidat moche prévenu en vaut deux demi, du coup.
Et comment je m'habille ?
Habille-toi propre, mais pas trop chic. Faut pas qu'il essaie une stratégie.
Non, ça va ?
Oui, oui, ça va. Non, ça va pas du tout, j'ai hyper peur.
Non, dis-toi une chose, c'est que ta force, c'est ta beauté.
C'est une blague ?
Non.
C'est pareil pour l'intelligence. Donc t'hésites pas à sortir des mots comme visiblement, ostensiblement, c'est bien ça.
Manifestement, incontestablement.
Oui, assurément.
Virginie Efira et Vincent Lacoste dans le film Victoria de Justine Trier. Alors, les personnes jugées belles perçoivent environ 12% de plus que les autres. C'est un constat aussi fait par le défenseur des droits. Première question, Patrick Chapat, est-ce que vous gagnez plus ou moins que vos collègues caricaturistes?
Quel est le physique de l'emploi dans le dessin de presse? C'est une bonne question. C'est un peu comme à la radio.
Ouais. Non, on peut être moche. Ouais.
Non, mais maintenant c'est filmé.
Parce qu'il y a des métiers où ça fait sens, le physique de l'emploi. C'est vrai qu'Angelina Jolie.
Oui, c'est certain.
En plus, elle a le nom qu'il faut.
C'est vrai. Mais quand on dit toujours pas le physique, mais quand on est caricaturiste, on ne fait que ça. Caricaturer le physique, griller le physique des gens.
Oui, non, mais c'est vrai. Mais moi, l'aspect caricature de mon métier n'est pas ce qui m'intéresse le plus et je suis pas très bon caricaturiste, en fait.
Plutôt le dessin.
Vous savez bien vous vendre.
Le message.
Le message.
Oui,
le discours.
Votre Trump, il est vraiment parmi les plus réussis de la caricature de tous les temps, là. Hein.
C'est-à-dire que c'est devenu un de mes personnages. Mmh. Le but, c'est qu'on s'empare d'un personnage, surtout quand il est nouveau. Macron, quand il est arrivé, on s'est dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Il est tout beau, par où est-ce qu'on peut le prendre?
Difficile, du coup.
Puis finalement, on finit par l'intégrer à son univers. Donc ça devient mon Macron, mon Trump. Oui. Et ça devient un personnage d'un univers qui fonctionne.
Et vous avez déjà eu un personnage que vous n'arriviez pas à caricaturer? Trop lisse ou impossible de le caricaturer?
C'est vrai que Macron, j'ai pris un petit moment à trouver les angles, ouais. Hein, c'est vrai. Il avait l'air un petit peu lisse comme
il
ça, finalement.
Vite, vous n'avez pas eu le temps de... Il était président le temps que vous sachiez le décider.
Ça, c'est aussi vrai. Mais non, j'ai pas en tête, non, un personnage, j'ai pas... Après, il y en a qui sont plus faciles que d'autres aussi. C'est vrai, Kim Jong-un, toute la famille Kim de Corée du Nord.
D'ailleurs, pour s'en rendre compte, Le choc des égaux par Chapat, publié par le journal Le Temps, hein, sur le site internet du Temps, pourrez-vous le procurer, l'acheter. On vous le conseille vivement parce qu'on adore les dessins de Patrick Chapat qui est avec nous et qui va être soumis à un questionnaire de Jupi Proust.
Jupi Proust, évidemment, c'est-à-dire c'est comme le questionnaire de Proust, faut répondre rapidement. Spécial Suisse aujourd'hui, le Jupi Proust.
Je connais pas.
Sur une échelle de 1 à 10, vous vous sentez neutre à combien ?
5.
Sur une échelle de 1 à 10, vous vous sentez riche à combien ?
5.
Ouais, c'est pas grand-chose pour un Suisse.
Non.
Raclette fondue ou rosti?
Ben, ensemble, tout ensemble.
Oh, ça, c'est beaucoup.
Non, plutôt fondu.
Très bien.
Il fait très froid.
Combien de noms de politiciens suisses seriez-vous capable de citer?
Alors, les Suisses sont incapables de prononcer le nom du président de la Confédération, parce que ça change chaque année.
Ouais, c'est ma question suivante. Quel est l'actuel président de la Confédération suisse?
Je ne sais plus.
Ah, c'est vrai.
Ueli Maurer.
Ueli.
Ueli.
À quelle partie
appartient Ueli Maurer?
Bon, ça, c'est pas difficile parce que c'est le parti qui nous donne le plus de fil à retordre. C'est notre Rassemblement National, mais version successful.
L'UDC.
C'est l'UDC. Ouais.
De quel homme célèbre vivant aimeriez-vous être la montre?
C'est pas facile, ça.
De quel homme la montre? Oui. J'ai pas compris.
C'est-à-dire que vous êtes avec lui au bout de son bras et vous vivez sa vie.
Et je vis sa vie.
Ouais.
En tant que montre.
En tant que montre.
Bien sûr.
Il faut que je mette votre question dans Google Translate.
Je posais la suivante. De quelle femme célèbre vivante, avec quelle femme célèbre vivante, aimeriez-vous déjeuner en paix? Il y a un lien.
Il y a un lien. Bon, on a cité Angelina Jolie, je ne sais pas si...
Allez, on déjeune avec elle. Est-ce que vous trouvez que c'est trop peu, 8 secondes, pour vous dire que la barre Ovomaltine, c'est de la dynamique?
Et ça, c'est marrant, c'est une vision très... Bah, quand on parlait des clichés avant,
c'est mon métier aussi, hein, camarade.
Je peux ralentir le débit, c'est si vous
dernière,
voulez.
Alors,
la dernière, si vous n'étiez pas suisse, Chapat, vous aimeriez être quoi?
Bah, il me reste un peu le côté libanais, il me reste un peu le Pakistan, ça va,
j'ai pas à choisir.
C'est vrai que vous avez de quoi faire. Et en plus, il écrit dans plein de journaux dans le monde et bien sûr dans le Courrier international. Patrick Chapat, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle qu'on peut mieux vous connaître sur votre site internet chapat.com avec 2 P, 2 T. Je rappelle aussi Le choc des égaux publié par Le Temps avec Globe Cartoon. Et puis, on a hâte de revoir votre dessin dans Le Canard enchaîné dès demain matin, dans Le Temps. Il se partage beaucoup sur les réseaux sociaux et à Charleroi, Fenêtre sur les couloirs de la mort en Belgique, l'exposition. Merci beaucoup les amis,
merci
à tous et demain nous recevrons Anna Mouglalis
au bon lait de brebis.